Bonsoir. Merci d'avoir bravé le beau temps, d'une certaine manière, pour venir à ce dernier cours de ce cycle sur Wagner et la philosophie, parce que c'était peut-être dur de résister à la tentation d'aller boire un pot en terrasse plutôt que de s'enfermer dans cette salle. Donc, dernière séance du cycle. Alors, je vais commencer par quelques précisions, parce que initialement, j'avais donné pour titre à cette dernière séance « Wagner et le radical chic postmoderne ». Et je visais par ces termes deux auteurs contemporains, qui sont Alain Badiou et Slavoj Žižek, qui tous les deux, en 2010, donc la même année, chez le même éditeur, ont publié un livre sur Wagner. Alors, ces deux auteurs qui appartiennent à des univers intellectuels différents, néanmoins, on le verra, ils s'inscrivent tous les deux dans une filiation avec le marxisme et... Selon le premier de ces deux auteurs, donc Alain Badiou, ils seraient les deux philosophes qui animent aujourd'hui la résurrection du mot communisme. Alors, ils sont... Moi, j'ai utilisé cette étiquette de radical chic pour les désigner, c'est parce qu'ils sont très à la mode dans les milieux intellectuels qui se veulent militants. Alors, on constate aussi dans des effets de mode dans ces univers. Il y a quelques années, c'était Tony Negri qui était la superstar. Aujourd'hui, il semble un peu passé de mode et c'est Badiou et Žižek qui ont pris la place. Alors, à la mode, ça veut dire qu'on refuse du monde à leurs séminaires ou à leurs conférences, que le moindre petit texte d'eux est convoité par les éditeurs parce qu'il est assuré de faire un carton. Dans tous les débats, j'avais évoqué Nietzsche dans la deuxième séance. Le problème avec les œuvres complètes de Nietzsche, c'est que sur la fin, il écrivait ses aphorismes sur les premiers papiers qui lui tombaient sous la main, donc y compris des notes de blanchisserie. Et les gens qui publient ses œuvres complètes se posent la question, est-ce qu'on met aussi des choses un peu triviales parmi les œuvres complètes? Bon, on pourrait se poser un peu la question de savoir si les notes de blanchisserie de Badiou et de Žižek ne seraient pas publiables par des éditeurs, vu les scores, les ventes en tout cas de ces ouvrages. Bon, trêve d'ironie, je dirais que c'est aussi deux auteurs qui ont une posture critique. Leur pensée se veut porteuse d'une remise en cause radicale de l'ordre social capitaliste existant. Donc voilà, je voulais, il y avait un lien suffisamment fort entre ces deux auteurs pour légitimer de les traiter ensemble. Et puis entre le moment de l'annonce du plan du cours et puis aujourd'hui, j'ai lu un livre de Jacques Rancière que je connaissais pas, qui s'appelle Le philosophe et ses pauvres. Et pour d'autres raisons que pour le cours, j'ai lu ça et j'ai découvert qu'il traitait brièvement de Wagner. Et comme ce qu'il en dit est assez intéressant, je l'ai intégré à cette séance. Je l'ai aussi intégré à cette séance parce que dans un autre cours de l'UP, Philippe Corcuff a aussi traité de Rancière, en traitant notamment de ses rapports avec Bourdieu sur la question de l'émancipation. Et comme ce que dit Rancière de Wagner est en lien avec ce qui a été traité par Corcuff, ça m'a semblé intéressant d'y revenir, même si, je vous rassure, si vous n'avez pas suivi le cours de Corcuff, il n'y a pas besoin d'avoir suivi le cours de Philippe pour comprendre ce que je vais en dire. Alors Rancière aussi, ce qui légitime de l'intégrer à cette séance, c'est aussi un philosophe qui s'inscrit dans une filiation avec le marxisme, mais j'évoquerai pourquoi. Sa pensée, elle me semble plus intéressante que celle de Badiou et Žižek. Alors c'est pour ça que ça me gêne un peu, que je voulais revenir sur le titre que j'avais donné à la séance, parce que ça me gêne un peu de parler dans son cas de radical chic. Même si chez lui aussi il y a un effet de mode, et en tout cas chez ses disciples il y a une tentative de tentation d'esthétisation et d'intellectualisation des problèmes sociaux au travers de la mobilisation de son œuvre, avec une tendance à faire de la critique de la société actuelle un privilège d'intellectuel auquel ceux qui n'auraient pas de bagage philosophique n'auraient pas droit d'accès. Donc voilà, du coup, je sais pas quel titre il faudrait donner à cette séance, donc tant pis. Mais voilà, donc par rapport à ce qui a été annoncé, un premier temps en plus sur Jacques Rancière, et puis ensuite Badiou et Žižek. Rancière, c'est un philosophe contemporain qui est élève du philosophe marxiste Louis Althusser, avec qui il a rompu assez tôt, et qui s'intéresse principalement dans son œuvre à la question de l'émancipation, notamment à partir de l'étude des textes des premiers militants du mouvement ouvrier. Hein, je renvoie sur ce plan à sa thèse qui a été publiée sous le titre « La nuit des prolétaires ». Et c'est également quelqu'un qui a développé une réflexion esthétique intéressante, notamment sur la question de la réception des œuvres artistiques, principalement dans un bouquin récent qui s'appelle « Le spectateur émancipé » qui a été publié par La Fabrique. Et je dirais que Rancière, de ce point de vue, c'est un des remèdes les plus appréciables à Adorno, c'est-à-dire à ce que j'avais pointé comme l'élitisme de Théodore Adorno, que j'avais évoqué dans la troisième séance, donc qui présuppose que, hein, chez Adorno, on a le public de l'industrie culturelle qui est nécessairement aliéné, qui gobe passivement tout ce qu'on lui impose comme consommation culturelle. Rancière prend le contre-pied, hein, il est complètement opposé à cette vision, parce qu'il présuppose au contraire que le spectateur d'une œuvre d'art doit être considéré a priori comme émancipé, à même d'interpréter le produit culturel qu'il consomme, ou l'œuvre qu'il apprécie. Alors dans le spectateur émancipé, ce qui est surtout sa cible, hein, les critiques s'appliquent à Adorno, mais c'est pas la cible principale. La cible principale, c'est surtout Guy Debord et le situationnisme, et dans sa suite Jean Baudrillard, par exemple. Donc des auteurs qui développent l'idée, je cite Rancière, l'idée du pauvre crétin d'individu consommateur submergé par le flot des marchandises et des images et séduit par leurs promesses fallacieuses. Alors, pour Rancière, ce discours de dénonciation des mensonges de la société du spectacle, hein, chez Debord, ou de la société de consommation chez Baudrillard, en fait c'est un discours d'élite qui se pose, ou qui se pense en tout cas, plus maligne que la masse des abrutis qui consomment passivement l'industrie culturelle. Et pour Rancière, et je le suis volontiers de ce point de vue-là, cet élitisme nourrit au mieux un discours paternaliste, c'est-à-dire que les masses sont abruties, donc il y a besoin de les éduquer en leur offrant des spectacles qui leur feront réaliser qu'elles sont aliénées. Et Rancière critique cette posture dans certaines œuvres qui se veulent engager dans ce qui relève de l'art politique, avec une intention lourdement pédagogique, il s'agit d'expliquer au spectateur qu'il est aliéné. Hein. Mais celui qui tient ce discours pédagogique, évidemment, est plus malin que les masses aliénées. Donc ça, c'est au mieux, mais au pire, ça nourrit un discours du mépris qui stigmatise les masses, donc toujours plus abruties, et qui se prévaut de ce mépris pour légitimer une posture cynique, élitiste en art comme en politique. C'est-à-dire les gens sont trop cons, donc il faut penser à leur place ou cultiver l'élitisme culturel. Rancière donc critique cette posture de l'art pédagogique qui est très fréquente à gauche, hein, notamment à gauche. Alors il la critique parce qu'elle présuppose l'inégalité. Hein. Elle tient l'inégalité comme un point de départ, et du fait qu'elle présuppose au départ l'inégalité, elle ne peut que la reproduire indéfiniment. Puisqu'il y a toujours celui qui sait et celui qui ignore, même s'il y a une entreprise pédagogique, celui qui apprend de celui qui sait ne peut jamais atteindre la complète connaissance, il ne parvient jamais à combler sa carence. Alors la posture de Rancière, celle qu'il préconise, c'est à l'inverse de partir des ce qu'il appelle les capacités des incapables. Hein, je le cite à nouveau, l'intelligence collective de l'émancipation n'est pas la compréhension d'un processus global d'assujettissement, elle est la mise en œuvre de la capacité de n'importe qui, de la qualité des hommes sans qualité. Hein. Ça, c'est la thèse d'un de ses livres importants qui s'appelle Le Maître ignorant, dont Corcuff avait beaucoup parlé, qui propose à l'inverse une relation pédagogique, non pas entre quelqu'un qui sait et celui qui est ignorant, mais entre deux ignorants, hein, avec l'idée que pour apprendre le piano, le maître ne sait pas davantage jouer du piano que l'élève, mais que c'est un processus collectif, en l'occurrence à deux, que va se réaliser cet apprentissage, et que c'est en partant d'une situation d'égalité, en l'occurrence dans l'ignorance, que quelque chose comme un apprentissage peut se réaliser. Donc ils vont apprendre ensemble Et c'est ce que Rancière appelle une collectivisation des capacités qui va produire l'apprentissage et au niveau politique qui va produire l'émancipation. Alors, j'en viens plus précisément à cet ouvrage. Donc voilà, pour Rancière, il faut partir d'un présupposé d'égalité. Ne pas présupposer que l'inégalité est première, mais faire comme s'il y avait de l'égalité, et c'est en construisant sur cette base-là, de ce présupposé d'égalité, que peut se réaliser une forme d'émancipation. Donc j'en viens au livre Le Maître Ignorant, qui est consacré à la manière dont différents philosophes considèrent le peuple. Alors ça commence à Platon et ça se termine par Bourdieu, en passant par Marx. Donc c'est centré sur ces trois figures intellectuelles, mais il y a quelques pages qui sont consacrées au maître chanteur de Nuremberg, donc un opéra de Richard Wagner créé en 1868. Et c'est principalement centré sur la figure de Hans Sachs, qui est un des personnages principaux de cet opéra. Et donc j'avais déjà dit quelques mots de l'intrigue de l'opéra. Hans Sachs, c'est un cordonnier qui participe au concours de chant que les artisans de Nuremberg organisent. Et donc il y a le concours qui approche, et Hans Sachs va permettre à quelqu'un qui n'est pas un artisan, mais qui est un jeune noble, Walter, de participer au concours, parce que la récompense du concours, c'est la main d'Elsa, la fille d'un des artisans, dont Walter est amoureux. Alors, Rancière fait remarquer que dans les représentations courantes, le cordonnier est situé dans la position la plus basse, la moins considérée dans la hiérarchie des artisans. Artisans qui eux-mêmes, depuis Platon, sont stigmatisés comme appartenant aux couches inférieures de la société, parce qu'ils sont dans le domaine du matériel, de la pratique, alors que le philosophe, l'intellectuel, il est avec le monde pur des idées. Hein. Mais les cordonniers sont... il y a toute une métaphore, toute une analyse de la figure du cordonnier dans les représentations de l'artisanat et du travailleur. Alors, Hans Sachs, c'est un cordonnier, mais c'est aussi un poète malicieux qui va faciliter donc la victoire de Walter à ce concours. Et Rancière insiste sur l'ambiguïté de l'intrigue de l'opéra. Parce que le concours des maîtres chanteurs pourrait à première vue paraître mettre en scène ce qu'on appellerait la culture populaire. La culture du peuple envisagée dans son autonomie, dans son indépendance. Une culture populaire qui échappe à toute hiérarchisation culturelle. Parce que, notamment, ce sont les artisans, donc les travailleurs, le peuple, ça se passe au Moyen-Âge cette histoire, je ne l'ai pas précisé, ce sont les artisans eux-mêmes qui sont juges de... Enfin, c'est le peuple qui est juge du concours. On va dire que ce n'est pas des professionnels du chant qui vont identifier et sacrer le vainqueur du concours. Hein. Donc, ça présente une culture populaire dans son autonomie, autosuffisante, d'une certaine manière, et égale en dignité et en valeur avec d'autres cultures, et notamment avec le grand art des couches plus favorisées. Et dans l'opéra, on est dans une forme d'exaltation, de valorisation en tout cas, du bon sens populaire, de l'humour du peuple. Alors c'est un des rares opéras de Wagner qui soit assez joyeux. Hein. Alors, la tonalité d'habitude est plutôt sombre, mais là c'est plutôt rigolard. Et ça se coulerait dans une vision du peuple, que les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron qualifieraient de populiste, ou qui relèveraient du relativisme culturel, qui est une posture intellectuelle quand on aborde les cultures populaires, les cultures dominées, c'est-à-dire de nier la domination, la dévalorisation symbolique des cultures populaires. C'est-à-dire considérer que ce que apprécie le peuple comme forme culturelle, c'est égal en dignité, ça n'a pas à être jugé à l'aune de la grande culture. Et notamment, cette culture populaire, elle vaut largement celle des élites, parce qu'elle aurait des qualités qui lui seraient spécifiques. Et dans les cultures populaires, on mettrait l'accent sur des qualités de franchise, de gaieté, de simplicité, etc. Ça, c'est une manière dont, notamment les sciences sociales, mais aussi la littérature et l'art, peuvent considérer les cultures populaires. L'idée du relativisme culturel, que j'avais évoqué chez Lévi-Strauss en anthropologie, ça veut dire, les mythes des Bororos, chez Lévi-Strauss, c'est les mythes des Bororos, ça vaut la littérature du Graal. C'est ce que les missionnaires considéraient comme des affabulations de sauvages, de peuples primitifs, c'est égal en dignité. Bon, donc toutes les cultures se valent. Il n'est pas question de les hiérarchiser. Donc c'est le relativisme culturel en anthropologie, appliqué à nos sociétés, c'est posture donc que Grignon et Passeron appellent le populisme, qu'ils opposent évidemment à la posture inverse, qui est le légitimisme culturel, qui est à l'inverse, qui consiste à l'inverse à n'envisager les cultures populaires que sous l'angle du manque, de ce qui leur fait défaut pour être des vraies cultures égales en dignité à la culture dominante. Alors, du côté du légitimisme culturel, il y a évidemment Adorno. C'est-à-dire, il y a la grande culture, et encore, on avait vu que Adorno était extrêmement exigeant, mais il y a la grande culture, et puis l'industrie culturelle, c'est de la daube, c'est... voilà. Alors, c'est aussi une posture qu'on retrouve fréquemment, qui se retrouve, par exemple, chez Bourdieu. C'est Grignon et Passeron, qui ont été des collaborateurs de Bourdieu, sont extrêmement critiques à l'égard de cet aspect de la sociologie de la culture de Bourdieu. Alors donc, les maîtres chanteurs... Si, vu de loin, ça ressemble à un opéra populiste, puisqu'il valorise la culture de ces sympathiques et joyeux artisans de Nuremberg. Et on se moque d'ailleurs de ceux qui pourraient déjà paraître comme des intellectuels. Il y a un personnage ridicule dans l'opéra qui est Beckmesser et qui est typiquement un petit intellectuel, c'est le greffier. Donc lui, il est dans le rapport à l'écrit, alors que les autres sont dans le rapport à la matière. Cordonnier, orfèvre, etc. Donc Wagner donne l'image d'une culture autonome qui a ses propres principes de hiérarchisation. C'est le peuple qui sera juge du concours. Et puis qui a un peuple qui a ses valeurs propres. Et justement, l'opéra insiste sur l'incongruité qu'un noble, quelqu'un qui n'est pas du peuple, prétende participer à ce concours. Mais nous dit Rancière, c'est une fausse interprétation, cette interprétation populiste. Parce que la suite de cette autonomie de la culture populaire, en fait, est niée par l'intrigue de l'opéra. Parce que finalement, c'est Walter qui gagne le concours. C'est-à-dire, c'est le noble qui est vainqueur. Et qui remporte la main d'Eva. Alors que ce n'est pas, d'une part, un artisan, et d'autre part, il ne respecte pas les règles du chant. Il y a un des épisodes fameux de l'opéra, c'est Walter qui chante et il transgresse toutes les règles de chant. Et vous avez Beckmesser qui est aussi une figure du critique musical obtus nécessairement, qui note sur une ardoise, qui marque toutes les fautes de chant que commet Walter, et qui dit mon ardoise n'est pas assez grande pour avoir noté toutes les fautes. Mais finalement, c'est Walter, donc l'aristocrate, le noble, qui est aussi un révolutionnaire du chant parce qu'il impose un nouvel ordre esthétique, il révolutionne la technique ou l'art du chant. Et c'est lui qui est consacré vainqueur. Et dans cette histoire également, Hans Sachs, qui était le maître des chanteurs, se dépossède de sa position dominante, en matière de chant, mais également en matière d'amour, parce que lui aussi était amoureux d'Eva. Donc il renonce sur deux plans, celui du chant et celui de l'amour, et dans les deux cas au profit de Walter. Alors, la lecture que fait Rancière, c'est que la définition de l'art véritable, finalement, à la fin de l'opéra, ça échappe au peuple des travailleurs, puisque c'est un noble qui, à la fin, est sacré poète. L'art est un domaine aristocratique auquel le peuple n'a pas accès. C'est une chose pour une élite de gens de goût, à laquelle les gens du commun n'entendent rien. Ou, à la limite, la culture populaire, ça peut simplement servir de source d'inspiration pour des gens qui en feront de l'art véritable, comme le fait Walter. Donc, sous couvert d'une vision positive du peuple, Wagner nous propose, c'est la lecture qu'en fait Rancière, une conception de l'art qui est complètement élitiste. Et Rancière, d'ailleurs, n'évoque pas non plus, n'épargne pas la lecture de Nietzsche, hein, dont j'avais dit qu'il avait été très déçu par la première édition du festival de Bayreuth, parce que, précisément, il pensait que c'était la musique de Wagner était quelque chose de précieux, réservé à une élite de gens extrêmement cultivés, et il voit une espèce de plèbe culturelle, ceux aussi que Adorno va désigner comme des mangeurs de saucisses et des buveurs de bière. Et du coup, la musique de Wagner, qui était quelque chose d'extrêmement rare et recherché, à partir du moment où elle se vulgarise, perd de sa valeur distinctive. Et c'est aussi ça qui est aussi à l'œuvre, en tout cas on peut faire l'hypothèse, dans la rupture de Nietzsche avec Wagner. En tout cas, la détestation que Nietzsche va professer désormais à l'égard de la musique de Wagner. Parce que si l'art se démocratise, hein, et j'avais rappelé que Nietzsche était ennemi de la démocratie, eh bien il se corrompt et il perd toute sa valeur. Hein. Là aussi, on peut renvoyer à des choses que Bourdieu a travaillé dans la distinction, notamment comment l'adagio d'Alminoni est devenu au départ une curiosité de musicologue, pour ensuite en se diffusant tellement que c'est devenu la pire horreur. Le commun, le vulgaire de la musique classique. Bref, c'est bien un aristocratisme de la culture que défend Wagner dans les maîtres chanteurs, sur un mode finalement condescendant à l'égard du populaire. Hein. Et une condescendance que Grignon et Passeron avaient déjà relevée chez les tenants de la posture du populisme. Hein. C'est l'idée, si leur culture vaut bien celle des autres, bah c'est bien bon pour eux, donc qu'ils y restent, hein, dans leur monde culturel à eux, mais qu'on a bien soin de tenir à distance pour qu'ils ne viennent pas contaminer ou dégrader celui des dominants. Tout au plus, peut-on y faire des emprunts, cette culture populaire, mais sur un mode transfiguré, comme écart de distinction. Alors, pour illustrer un peu ça, je vais passer au moins le début de... si ça veut bien marcher... Non, je l'ai éteint. De l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg. Donc c'est la piste 2. Thank you. j'arrête un peu prématurément, mais je suis déjà très en retard sur... comme à chaque séance, j'aurais pas réussi à me corriger. Alors je vais passer maintenant à Alain Badiou, donc qui, alors c'est aussi, c'est comme chez Rancière et aussi chez Chichek, l'intérêt porté à Wagner est marginal dans l'œuvre de chacun des trois auteurs dont je traite ce soir. Hein. C'est Badiou le fait remarquer lui-même dans donc l'ouverture de ce bouquin, la 5 leçons sur le cas Wagner. C'est quelque chose qui jusqu'à présent était jamais arrivé dans son œuvre ni dans ses considérations esthétiques. Donc il a fait aussi d'une certaine manière son coming out wagnérien très tard. Alors Alain Badiou, quelques mots pour le présenter. Donc il est né en 1937 dans un milieu très politisé, puisque son père, qui était professeur de mathématiques en classe prépa, a été résistant et maire SFIO de Toulouse de 44 à 58, ce qui lui a permis à son fils aussi d'être invité à Bayreuth et d'y assister aux premières mises en scène qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Bayreuth a pu recommencer à jouer Wagner. Donc Badiou est philosophe, normalien, et il a un parcours intellectuel qui est indissociable de son engagement politique. Hein. Donc il a d'abord milité au PSU, mais il l'a quitté assez vite pour rejoindre la mouvance maoïste à la fin des années 60, notamment dans cette mouvance qui gravite autour de Louis Althusser, où il y a aussi Jacques Rancière. Et en 1969, c'est un fondateur de l'Union des communistes de France marxiste-léniniste, donc une organisation maoïste, qui sera une des plus durables. Hein. La plupart des organisations maoïstes s'effondrent assez rapidement, mais celle-là va être durable. En 1980, elle donnera naissance à quelque chose qui s'appelle l'organisation politique, qui est un groupuscule qui s'inscrit toujours dans une continuité du maoïsme, et Badiou va être un des chefs de file de ce groupuscule et son principal intellectuel organique. Et c'est quelque chose qui, enfin une organisation qui notamment a été active dans la défense des sans-papiers. Bon, Badiou a fait l'essentiel de sa carrière à l'université de Saint-Denis, donc l'ancienne université de Vincennes qui a été créée dans la foulée de mai 68, qui se voulait une université un peu ouverte aux nouvelles démarches intellectuelles, dans laquelle il y a eu notamment Foucault, Deleuze et également Rancière qui ont enseigné. Et il a terminé sa carrière comme professeur de philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors, Badiou, il est arrivé tardivement à son statut de vedette intellectuelle vers le milieu des années 2000, notamment du fait de son essai « De quoi Sarkozy est-il le nom ?», dans lequel il a traité l'actuel président d'homme au rat, ce qui était une référence à Freud, mais aussi une manière de dénoncer comment l'actuel président joue sur les peurs. Mais bon, ça a suscité une polémique dans la presse. C'est vraiment de l'insulte à Dominem. Ce qui est aussi assez drôle, c'est que ça a lancé une mode, c'est-à-dire qu'on ne compte plus les titres qui se demandent de quoi telle ou telle chose ou telle personne est le nom. C'est juste une petite parenthèse, anecdote vraiment dérisoire, mais elle est rigolote. J'ai été sollicité par une journaliste il y a quelque temps qui voulait, en pure perte, m'interroger sur le phénomène Zaya, donc cette prostituée qui a été offerte en cadeau à Franck Ribéry et à l'équipe de France de foot, et elle me dit « Mais de quoi Zaya est-elle le nom ?» Et là, je suis resté sans voix. Donc ça, c'est l'influence de Badiou. Un autre livre qui a suscité la polémique, c'est « Portée du mot juif », qui a été taxé d'antisémitisme. Accusation dont Badiou s'est défendu en arguant que la défense de la cause palestinienne et la dénonciation de la politique israélienne ne pouvait être assimilée à de l'antisémitisme, que le raccourci était un peu trop criant. Et puis, dernier ouvrage récent qui a eu un certain écho, au moins dans certains milieux militants, c'est l'hypothèse communiste, où il entend réhabiliter ce terme et cette identité de communiste, mais aussi ce projet. Alors, c'est effectivement un des aspects de la continuité, de la cohérence du parcours d'Alain Badiou que de se réclamer de cette identité. Mais alors continuité et cohérence qui peuvent éventuellement poser problème quand on se fait toujours le défenseur ou le laudateur de l'œuvre philosophique mais aussi politique de Mao Tse-tung, qui a quand même quelques millions de morts sur la conscience. Aussi une des prises de position de Badiou politique qui est un peu délicate à tenir, c'est qu'il a condamné l'invasion du Cambodge par l'armée vietnamienne en 1979, donc une invasion qui a mis fin au régime des Khmers Rouges. Donc c'était une manière de prendre la défense des Khmers Rouges, qui là aussi ont quelques millions de morts sur la conscience. Donc, des positions politiques un peu, que je pense indéfendables. Mais surtout, si j'ai évoqué ces ouvrages, c'est à cause des titres et de la posture intellectuelle qui est celle de cet auteur, parce qu'il s'agit de centrer la réflexion sur des mots ou sur des idées attachées à des mots. Hein, de quoi Sarkozy est-il le nom, l'hypothèse communiste, bon. Donc là, on a un des traits de la pensée de Badiou qui est l'essentialisme. C'est-à-dire que c'est aussi un philosophe qui se réfère à Platon, et à l'idée qu'il y a le monde des essences, des idées pures, et puis il y a le monde vulgaire, le monde matériel que nous connaissons, et les éléments de ce monde matériel s'approchent plus ou moins de l'essence. Hein. Je sais pas, tel statut s'approche plus ou moins de l'essence du beau, par exemple, hein, chez Platon. Donc la philosophie telle que l'entend Badiou, Elle s'intéresse avant tout au monde des idées, des essences, et elle ne s'intéresse qu'avec répugnance au domaine vulgaire de la réalité sensible, hein, qui est aussi le monde historique qui, lui, évolue et se transforme. Alors c'est ce qui fonde la hauteur philosophique, tout au moins quand on s'inscrit dans ce type de philosophie, et c'est le type de rapport, de hauteur qu'adopte Badiou dans son rapport aux politiques. Hein. Par exemple, dans son bouquin sur Sarkozy, il essaye d'identifier l'essence du sarkozisme. Et ce qu'il appelle le transcendantal péténiste. Bon. Alors qu'on voit bien qu'il s'agit plutôt d'un composé extrêmement instable, au point d'être, à mon sens, politiquement inconsistant, où le péténisme n'est pas ce qui le leste le plus, ce personnage. Donc on est devant une philosophie qui est à l'opposé de celle que préconise par exemple Ludwig Wittgenstein lorsqu'il dit qu'il ne faut pas chercher la substance derrière le substantif. C'est-à-dire que quand on utilise un même mot, un même substantif, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un élément commun, une essence qui serait permanente au travers des différents usages du même mot. Mais en fait, ce qui fait le sens du mot, c'est son usage. Et c'est le contexte de son usage. Donc on est, avec Wittgenstein, dans une philosophie totalement opposée à celle essentialiste, hein, que préconise Badiou. Alors, bon, c'est des éléments de présentation, mais qui me semblent importants avant de passer à la manière dont Badiou envisage Wagner. Et dans ce livre, donc 5 leçons sur le cas Wagner, Badiou se livre avant tout à une défense de Wagner contre une série de critiques qui lui ont été adressées, et par des philosophes, et spécialement par deux philosophes qui sont d'une part Philippe Lacoue-Labarthe, donc un philosophe français contemporain, et d'autre part Théodore Adorno. Hein, on va retrouver Adorno, des éléments que j'avais pas évoqués dans la séance que j'avais consacrée à Adorno. Alors, le premier auteur qui s'est attaqué à... Donc, je dirais, l'ouvrage de Badiou, c'est une tentative de réfutation des critiques adressées par Lacoue-Labarthe et Adorno à la musique de Wagner. Donc, premier auteur, Lacoue-Labarthe, qui a consacré un ouvrage à Wagner, qui est donc paru en 1991, qui s'appelle « Musica ficta, figure de Wagner ». Et la thèse de Lacoue-Labarthe, c'est que Wagner est un musicien fasciste, ou proto-fasciste. Parce qu'il relèverait d'une esthétisation de la politique qui transformerait la musique en un opérateur idéologique, et elle relèverait aussi cette musique d'une mythologisation de la nation. Hein. Wagner serait le promoteur d'une confusion entre politique et religion artistique, ce qui le rapproche du fascisme. Et notamment, alors ça, il s'appuie aussi sur les maîtres chanteurs comme assez symptomatique de ça. C'est un opéra qui se termine sur une exaltation du génie allemand, et donc il y a une espèce de mythologisation de l'Allemagne, qui se retrouve aussi dans d'autres opéras. Enfin, en tout cas, on peut faire des lectures comme ça d'autres opéras, notamment du Ring. Donc, on aurait le mythe national au travers de l'œuvre de Wagner, hein, qui définirait une forme unifiée du peuple, une clôture du peuple sur lui-même et une vision figée du peuple qui exclurait toute différence, toute figure de l'altérité. Et on voit bien que c'est aussi ça qui est au cœur du nazisme. Et d'autre part, Wagner recourait à ce que la Coulabart appelle la technologie, la totalisation et l'unification, c'est-à-dire en gros des procédés musicaux. Il essayerait par des effets de saturation et de fascination de fasciner le spectateur, l'auditeur. Et il ne laisserait aucun échappatoire à son public. Tout le réseau, je cite Badiou, qui se fait le porte-parole avant de le critiquer de la Coulabart. Tout le réseau des techniques artistiques qu'il a inventé, donc Wagner, est mis en œuvre pour maintenir l'auditoire dans un état hypnotique qui rende possible son assujettissement à ces nouvelles configurations mythologiques, qui donc sont celles du nationalisme allemand, prémonitoire du nazisme. Et à l'inverse, la Coulabart plaide pour une autre musique, qui renoncerait au sublime, c'est-à-dire qui renoncerait aux effets qui essayent de fasciner le public. Et il plaide aussi pour un travail de l'indécision entre l'art et ce qui relève de l'art et ce qui n'en relève pas. Alors, on verra plus loin que Badiou s'oppose tout à fait à cette indécision. Lui, au contraire, veut marquer une claire frontière. Donc ça, c'est un premier auteur auquel entend s'affronter Badiou. Et puis, deuxième auteur, c'est Adorno. Alors, Badiou évoque les critiques que j'ai évoquées dans la troisième séance, que Adorno a adressées à celle de Wagner, mais il en adresse, il essaye de réfuter d'autres critiques que je n'ai pas évoquées, qui sont présentes dans un autre ouvrage d'Adorno que son essai sur Wagner, sur lequel je m'étais centré il y a deux semaines, mais il s'intéresse surtout aux critiques qui résultent de l'ouvrage d'Adorno qui s'appelle « La dialectique négative », qui est une critique de Hegel. Alors, le reproche d'Adorno à la dialectique de Hegel, c'est qu'elle se clôt sur l'identité. L'idée que dans la dialectique hegelienne, l'opposition de deux négations débouche sur de l'affirmation. C'est comme en mathématiques, moins fois moins, ça fait plus. Donc il y aurait, Adorno développe à partir de cette idée-là, surtout l'idée qu'il y a, dans la résolution dialectique, il y a de la positivité et que la négation disparaît. La négation qui est à l'œuvre dans la dialectique hegelienne disparaît, elle est éliminée. Donc, ça se termine, la résolution de la dialectique se termine toujours sur de l'identité. Également sur une identité à prétention universelle. Donc là aussi, il y aurait exclusion de la différence au profit de l'identité dans cette vision-là. Et c'est une nouvelle fois une logique d'exclusion qui transparaîtrait dans cette philosophie. Le triomphe de l'unité positive à la résolution dialectique, ce serait le triomphe de l'universel qui serait donc anéantissement de la différence, anéantissement de l'autre. Et on voit comment cet enjeu philosophique rencontre aussi la question de l'extermination des Juifs. La question de l'art possible après Auschwitz, c'est une question qui a taraudé Adorno. Alors dans cette optique, de critique de la dialectique hegelienne, ce qui est visé, c'est aussi la fondation par Wagner, en tout cas sa prétention à fonder un art total qui annule les différences entre différentes formes esthétiques au profit d'une forme de synthèse supérieure. Et selon également Adorno, ça se retrouve dans la composition musicale elle-même, où il y a effectivement de la dissonance, il y a différentes tonalités qui peuvent se mêler, mais qui finalement se résolvent nécessairement dans l'accord final, qui est une résolution harmonieuse mais qui est aussi écrasante des différentes couches musicales. Et puis un autre reproche que Adorno adresse à Wagner et que sur lequel Badiou se focalise beaucoup, c'est la place de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance dans l'œuvre de Wagner, elle n'est pas traitée au présent comme une expérience du sujet souffrant, mais elle est prétexte à spectacle. Elle est théâtralisée dans la valorisation de la compassion. Ce qui importe dans ces opéras, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait un personnage qui souffre, mais le fait qu'on ressente un plaisir esthétique dans le spectacle ou dans la musique de la souffrance, et que cela déclenche un sentiment valorisé, celui de la pitié ou de la compassion. Et par exemple, Parsifal est un opéra qui valorise beaucoup la thématique de la compassion. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint cette critique d'Adorno, ça rejoint des choses qui ont été traitées par le sociologue Luc Boltanski dans La souffrance à distance, où il pose la question lui aussi de l'authenticité et de l'autosatisfaction dans le spectacle de la souffrance d'autrui. Donc voilà, ça fait beaucoup de reproches qui sont adressés à Wagner, hein, par Lacoula, Barthes ou Adorno. Donc il y a un dossier d'accusation qui est lourd. Et Badiou va essayer malgré tout de réfuter ces critiques. Alors, il va tout d'abord, je vais centrer surtout, sans doute sur celle-là, la question de l'identité, hein, que stigmatise Adorno, de la résolution des contraires par écroisement des contraires, par écrasement des différences. Hein. Alors l'argumentation de Badiou, elle est intéressante parce qu'elle mobilise plusieurs œuvres et elle insiste sur le fait, et je crois qu'il est relativement convaincant, qu'il n'y a pas unification, mais au contraire que très fréquemment il y a clivage et exacerbation des clivages dans l'œuvre wagnérienne. C'est-à-dire que Adorno se trompe, il n'y a pas résolution des différences, des antagonismes, des oppositions, des clivages, mais il y a leur exacerbation comme moteur de l'œuvre, mais il n'y a pas leur résolution. Et que cette exacerbation des clivages, elle débouche précisément sur la souffrance des personnages, éventuellement sur leur destruction, mais que c'est bien cette souffrance qui est traitée, et ce n'est pas la compassion qu'elle suscite chez le spectateur. Alors, premier exemple de clivage, c'est celui de Tannhäuser, qui est un personnage profondément clivé. Alors, d'abord, il est divisé entre deux formes d'amour. Il y a d'une part l'amour charnel qu'il vit sur le Venusberg, et puis il y a l'amour chaste et pur qu'éprouve pour lui Elisabeth. C'est aussi un déchirement religieux. Il y a d'un côté les divinités païennes, Vénus, et de l'autre il y a le christianisme. Et on sait que tout le moteur de l'intrigue, c'est qu'il est déchiré entre les deux. Et puis, Tannhäuser, c'est aussi un personnage qui est déchiré entre rester et partir. C'est-à-dire soit rester sur le Venusberg ou en partir, ou bien rester auprès d'Élisabeth ou partir à Rome avec les pèlerins pour demander le pardon du pape. Et c'est un déchirement qui est sensible, notamment dans la scène du concours de chant, où au départ il commence à chanter l'amour courtois, et puis il fait une rechute et il chante les plaisirs de Vénus. Donc un personnage profondément clivé qui reste clivé, c'est le moteur de l'intrigue. Et puis, deuxième exemple de personnage clivé, c'est le personnage de Wotan dans le ring, dans la tétralogie, qui est divisé parce que c'est le dieu des contrats, il est là pour veiller à ce que les lois qu'il a gravées sur sa lance soient respectées, mais il ne veut pas lui-même respecter sa part de contrat, qui le lie aux géants, qui ont construit pour lui le Valhalla. Et tous ces problèmes, et toute l'histoire du cheminement vers le crépuscule des dieux, ça naît du fait qu'il ne veut pas respecter le contrat dans lequel il s'est engagé, il ne veut pas payer. Au départ, il doit livrer Freya, la déesse, aux géants comme paiement, et puis il se défile, et puis il trouve l'or, il est bien forcé de payer avec l'or du Rhin les géants, mais après, il va essayer, par différents moyens, vu que lui-même est tenu par les contrats, il ne peut pas le faire lui-même, récupérer l'or, il va essayer tout d'abord d'avoir un fils, ça va être Sigmund, qui, avec l'idée que lui n'est pas lié par le contrat, donc il va récupérer l'or pour lui, ça ne marche pas, mais il y a le fils de Sigmund, qui est Siegfried, qui va, lui aussi aura ce rôle, cette mission de récupérer l'or. Mais ça marchera pas mieux avec Siegfried, parce que Siegfried va effectivement récupérer l'or, hein, après avoir tué le dernier géant qui reste, Fafner, mais il le fait, il récupère l'or en éliminant Wotan et en précipitant la fin des dieux. Donc là aussi, il y a une contradiction interne au personnage, mais elle n'est pas dialectique. Au contraire, elle produit la destruction de Wotan et de l'univers des dieux. Donc, réfutation, je dirais, de cette idée de que les tensions se résolvent, que les contradictions se résolvent dans une synthèse supérieure et harmonieuse. Elles ne se résolvent pas, elles entraînent la destruction du personnage et du monde des dieux, en l'occurrence. Et puis, il y a un autre point qui, celui-là, est strictement musical, qui plaide sur l'irrésolution des clivages. C'est que, alors, c'est quelque chose qui est sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est le motif qui clôt le crépuscule des dieux, donc le dernier opéra de la tétralogie, hein, donc vraiment la fin totale du cycle, c'est un motif qui n'apparaît qu'une seule fois dans tout le ring, et c'est un motif qui accompagne Siglin dans la Valkyrie, hein, alors que les motifs, ils reviennent, sont vraiment récurrents, celui-là, le motif final, il fait une seule apparition auparavant dans tout le cycle, et c'est le thème qui est appelé « thème de la rédemption par l'amour ». Et Badiou, il voit un thème flottant qui marque l'irrésolution du récit. Le fait que, à ses yeux, le récit du ring, hein, l'intrigue, se termine sur une fin ouverte, en fait. Le monde des dieux et des mythes a disparu, mais l'incertitude règne sur ce qui va venir après. Hein. Et il fait référence à la mise en scène de Patrice Chéreau que j'avais déjà évoquée, où vous avez la masse des humains qui reste sur scène, en regardant avec un regard interrogateur le public. Donc on reste sur un point d'interrogation, c'est la fin de cette histoire. Et Badiou nous dit « Aucune synthèse n'est possible, tout a été détruit et quelque chose d'énigmatique plane au-dessus de la scène de destruction. » Donc en fait, il n'y a pas de résolution, on reste sur quelque chose d'ouvert. Donc on n'est pas dans une dialectique qui se terminerait sur une synthèse supérieure. Et puis, l'autre aspect, c'est donc la... ça c'est les réponses à Adorno. La réponse à la coule à Barthes, elle est plus... elle me semble moins convaincante. Et elle se base surtout sur l'idée de... sur la référence à Parsifal. Donc le dernier opéra de Wagner. Et c'est là qu'on va retrouver ce que j'évoquais comme problématique dans sa pensée, c'est-à-dire l'idéalisme focalisé sur les essences. Hein, parce que je le cite dans le chapitre qu'il consacre à Parsifal, son problème c'est comment l'idée se constitue, ce qui pour lui correspond précisément au moment où l'impur devient pur. Et effectivement, il se trouve que... Parsifal, c'est une histoire de pureté, hein, puisque la pureté, c'est ce qui définit le personnage principal, celui de Parsifal, hein, qui est toujours pur sur toute l'intrigue, mais au départ, il est la pureté sans la connaissance, et à la fin de l'opéra, il est la pureté avec la connaissance. Donc on reste toujours dans une stabilité du personnage sous cet angle de la pureté. Là où il y a une évolution, c'est dans un autre personnage de l'opéra, c'est Kundry, qui au départ est du côté de l'impur, mais qui à la fin du récit est passé à la pureté. C'est-à-dire que l'opéra se termine sur son baptême. Donc on est dans une vision essentialiste. Hein. Ça lui plaît à Badiou parce qu'il y a cette notion de pureté qui reste permanente et structurante dans cet opéra. Alors, l'autre thème qui intéresse Badiou dans cet opéra, c'est celui de la cérémonie. Puisque un des enjeux de l'intrigue, c'est la cérémonie du Graal. Et au début de l'opéra, Parsifal assiste à cette cérémonie et il ne comprend pas ce qui se passe. Hein, j'avais évoqué déjà la semaine dernière cette particularité du personnage qui est le manque de connaissances. Mais à la fin de l'opéra, c'est lui qui accomplit cette cérémonie, qui célèbre la cérémonie à la place de celui qui initialement l'a célébrée, c'est-à-dire Amfortas. Qui précisément est du côté de l'impur parce qu'il a cédé à la séduction de Kundry. Et un des renversements dans l'intrigue, c'est que au départ, le Graal est masqué. Donc le fameux calice qui est censé avoir recueilli le sang du Christ, il est masqué, et lorsque c'est Amfortas qui célèbre la cérémonie, on dévoile le Graal. Et lorsque Parsifal prend sa place à la fin de l'opéra, il décrète que désormais le Graal doit être exposé en permanence, doit être en permanence dévoilé. Et c'est quelque chose qui se joue autour du collectif. C'est-à-dire que sur cette cérémonie, elle est collective, au sens où l'ensemble des chevaliers du Graal assistent à la cérémonie. Et ils sont encore plus nombreux à la fin de l'opéra qu'au début. Donc c'est bien quelque chose de l'ordre de la mise en scène de la collectivité qui se joue au travers de la cérémonie. Et la lecture qu'en fait Badiou de cette scène, c'est que au travers de cette cérémonie, la collectivité va se représenter elle-même sans recours à la transcendance. Et il fait un rapprochement avec des cérémonies où le peuple est mis en scène et se produit lui-même dans sa propre représentation. Et la référence pour lui, alors il dit, c'est effectivement quelque chose il reconnaît que c'est quelque chose d'un peu dangereux, cette idée de mise en scène du génie du peuple. De mise en scène du peuple dans sa puissance, dans sa pureté, dans sa grandeur. Hein. Mise en cérémonie du peuple qui est le reflet de ses potentialités infinies. Alors il dit, le risque c'est que ce ne soit pas vraiment une mise en scène des potentialités infinies du peuple, mais que ce soit plutôt une mise en scène de la puissance de l'État qui est censée le représenter. Donc effectivement, on pense aux mises en scène du peuple, du nazisme ou du stalinisme. Mais, il dit effectivement, il y a ce danger-là, on pense au rassemblement précisément de Nuremberg qu'avaient organisé les nazis, enfin toutes ces mises en scène du peuple, dans sa masse, et dans son pouvoir, dans sa puissance. Mais ce qui lui semble s'être le plus rapproché de cette représentation authentique du peuple par lui-même, c'est la révolution culturelle chinoise. Alors il fait une petite concession, c'est que la figure de Mao représentait bien une forme de transcendance dans cette histoire-là, mais malgré tout, pour Badiou, en 2010, ce qui s'est le plus rapproché de la mise en représentation du peuple par lui-même, ça reste la révolution culturelle. Alors, il reconnaît, une nouvelle fois, que chaque fois qu'on a essayé d'instaurer la cérémonie, une cérémonie d'auto-représentation du peuple, le totalitarisme n'était pas bien loin, mais il balait cette réserve par « des arguments de ce genre sont-ils recevables? L'humanité peut-elle véritablement s'en sortir sans cérémonie ?» Ce qui me semble une manière un peu désinvolte de rejeter le problème de la représentation du peuple, c'est-à-dire qui c'est qui représente et qu'est-ce qui est représenté dans cette mise en scène, et qui est-ce qui est l'organisateur de la mise en scène. Et puis, dernier point, c'est la question de l'élitisme et de la grandiloquence, c'est-à-dire que malgré toutes les précautions qu'il prend pour tenir à distance les propos les plus disqualifiants de Richard Wagner, les usages et aussi les usages les plus contestables de son art, le politique que valorise Badiou est grandiloquent. Hein, c'est en affinité avec le grand art dont, selon lui, il faudrait préparer le renouveau. Hein. Il dit « La grandeur ne fait plus seulement partie de notre passé, elle fait aussi bien partie de notre avenir. » Donc le programme que dessine Badiou, c'est une politique qui se retrouve dans le wagnérisme, qui se satisfait du déploiement wagnérien, parce qu'il a rejoint son attente de cérémonie, de mise en scène des potentialités infinies du peuple. Et donc aussi, et quoi qu'il en dise, c'est bien la production d'une unification sans différence. Hein. La totalité unifiée du peuple, dans lequel, précisément, disait le président Mao, il n'y a pas de contradiction. Donc si on se réfère à la piste d'Adorno, c'est bien sur l'écrasement de la différence que se déploie la forme du politique que défend Alain Badiou. Et je crois que, comme le préconisait Adorno, il faut se méfier de tout ce qui veut se réaliser dans une synthèse supérieure, dans une unification qui résoudrait tous les contraires. Mais au contraire, laisser de la place à la différence, au travail du négatif, de la dialectique, de la part négative de la dialectique, contre cette vocation de l'unification et de par écrasement des différences. Alors, on va faire une nouvelle petite pause musicale. Alors, j'ai évoqué, et je vais y revenir dans un instant à propos de Žižek, sur le final donc du Crépuscule des Dieux. Donc, la version que je vais vous passer, c'est celle dirigée par Pierre Boulez, avec l'orchestre de Bayreuth. Donc, cette fameuse mise en scène dont j'avais essayé, en pure perte, de vous passer un extrait l'autre jour. Alors, dernier auteur, Slavoj Žižek, donc qui est un philosophe slovène, qui est né en 1949, donc qui consacre cet ouvrage « Variation Wagner » à l'œuvre de Wagner, donc c'est le même éditeur, la même année que Badiou. Hein. Et ce sont, alors c'est assez curieux que les deux soient, les deux s'apprécient, hein, en tout cas ils se citent volontiers. Bon, il y a une proximité idéologique hein, autour de cette idée de revalorisation de l'idée du communisme. Cela dit, Žižek comme philosophe est quelqu'un de très différent de Badiou, c'est-à-dire que lui il est résolument postmoderne, c'est-à-dire que il s'embarrasse pas des hiérarchies culturelles. Là pour le coup, c'est un grand mélange de références dans lesquelles domine malgré tout la psychanalyse de lacanienne. Mais c'est quand même l'idée d'un relativisme général, d'une inattention aux différences ou aux hiérarchies entre les ordres de discours ou les registres de pratique. Hein. Donc c'est, je dirais, en tout cas l'ouvrage sur Wagner, on est dans le domaine de la libre interprétation qui ne s'embarrasse pas de ce qu'il appelle des futilités ou des lieux communs historicistes. C'est-à-dire que rapporter par exemple l'œuvre de Wagner à son contexte de création, hein, ce que faisait d'une certaine manière Adorno, pour lui ça apparaît de l'ordre de la futilité, enfin totalement inintéressant, mais il revendique une liberté d'interprétation qu'il compare à celle de la liberté d'interprétation du metteur en scène des œuvres wagnériennes. Hein, c'est-à-dire il propose une lecture totalement subjective et bon, qui ne s'embarrasse pas beaucoup de contraintes de cohérence. Hein. Alors il y a différents thèmes qui sont, donc c'est une libre interprétation, donc c'est aussi quelque chose de parfois un peu insaisissable, il n'y a pas une thèse très très centrale et très très cohérente qui soit développée dans l'ouvrage. C'est, je dirais, une argumentation vagabonde où les rapprochements sont souvent hétéroclites. Alors j'ai retenu deux thèmes qui me paraissent les plus intéressants ou originaux. Alors le premier, ben, c'est justement la lecture de la fin du Crépuscule des Dieux, hein, ou plutôt la lecture des différentes fins que Wagner avait prévues, qui se sont succédées au cours de la maturation de l'œuvre. Hein, c'est-à-dire que, je l'avais évoqué, Wagner a révisé plusieurs fois la fin de l'opéra en envisageant différentes versions des propos ultimes de Brunehilde. Hein. Et Žižek distingue trois inspirateurs de ces fins successives. Alors la première, c'est une fin inspirée par Feuerbach, la première chronologiquement, donc Feuerbach, philosophe qui considère que de toutes les actions humaines, la plus grande c'est l'amour sexuel, et donc l'amour de Siegfried et de Brunehilde doit sauver le monde des dieux de la faute de Wotan. Donc c'est une exaltation de l'amour. Quelque temps plus tard, dans une nouvelle mouture de la fin de l'opéra, c'est Bakounine qui est davantage l'inspirateur de la fin du Crépuscule des Dieux, et c'est l'homme Siegfried qui détruit le monde ancien, et Brunehilde qui annonce son remplacement par une société humaine gouvernée par l'amour. Donc une vision révolutionnaire. Hein. Le monde des dieux est révoqué et détruit par une espèce de révolution. Et puis, dernière version, vers 1856, davantage inspirée par Schopenhauer et par son pessimisme, qui se concentre sur une résignation devant la nature illusoire de l'existence humaine. Hein. Mais finalement, Wagner aurait écarté des propos qu'il avait inspiré par Schopenhauer qu'il aurait fait prononcer par Brunehilde et laisse à la musique le soin de conclure. Hein. Alors cette musique, bah, c'est celle qu'on vient d'entendre. Elle entrecroise les motifs, hein, comme toujours, mais aussi comme dans la construction de la musique de Wagner, mais aussi comme si Wagner semblait hésiter à avoir du mal à conclure. Hein. Donc ça rejoint un peu l'idée de Badiou qu'il n'y a pas de synthèse finale. Mais donc l'opéra s'achève sur ce motif donc de la rédemption par l'amour, en combinaison avec trois autres motifs, celui des filles du Rhin, qui exprime le monde naturel, celui du Valhalla, qui exprime la domination de la loi, et puis le motif de Siegfried, qui exalte le héros libre. Hein. Mais Bon, ce qui est véritablement la conclusion, c'est ce thème relatif à l'amour, à la rédemption par l'amour. Et nous dit Chichek, en choisissant ce thème-là pour terminer l'opéra, eh bien, le Ring se distingue des conclusions d'autres opéras où l'amour est en fait beaucoup moins bien traité, parce que ses conclusions expriment son échec de l'amour. D'ailleurs, si vous regardez dans Tristan et Isolde, bah, l'amour s'affronte à la société et il est vaincu et il conduit à la mort des deux personnages. Dans Les Maîtres Chanteurs, l'amour de Hans Sachs pour Eva débouche sur un renoncement et un retour à la vie quotidienne dans le monde de la société. C'est-à-dire que Hans Sachs renonce à ses prétentions sur la main de Eva et retourne à son boulot de cordonnier. Et puis, dans Parsifal, il y a un refus de l'amour au sens sexuel qui est incarné par Kundry, au profit d'une autre forme d'extase, nous dit Chichek, qui est cette fois proprement religieuse. Alors, dans le Ring, on aurait un traitement un peu moins pessimiste, un peu moins triste ou attristant du thème de l'amour, mais on aurait le passage de la loi à l'amour, c'est-à-dire que la loi, c'est le monde de votants, du contrat, qui sont éventuellement transgressés, et ça conduit à la catastrophe, mais on débouche sur une forme d'amour, mais un type particulier d'amour qui est l'agapé, plutôt que l'éros. C'est-à-dire l'amour, l'agapé, c'est-à-dire davantage l'amour de l'humanité, plutôt que l'amour charnel. Parce que dans le Ring, dans la tétralogie, l'éros, l'amour charnel, il est conduit à l'échec. Hein, c'est notamment le cas pour ce qui est de Sigmund et Sieglinde, c'est aussi le cas pour Brunehilde et Siegfried. Mais, en revanche, les derniers mots de Brunehilde et cette fin, cette conclusion sur le thème de la rédemption par l'amour, manifesteraient la transformation de l'éros en agapé, de l'amour érotique en amour politique, qui se manifesterait dans l'avènement de l'humanité qui remplace les dieux. Et Chichek nous dit, l'agapé est ce qui reste une fois qu'on a accepté les conséquences de l'échec d'éros. Et Chichek insiste sur une spécificité de ce traitement de l'originalité de cette forme d'amour politique, c'est que c'est un amour politique qui est incarné par une femme, par Brunehilde. Alors que le domaine du politique, il est traditionnellement le privilège des hommes. Hein, et à l'inverse, le domaine des femmes serait la sphère du domestique. Alors, cette réflexion, elle est, et sur son incarnation féminine, elle est intéressante, mais je crois qu'on irait un peu vite si on suivait trop aveuglement Chichek dans cette piste d'un Wagner féministe qui confère comme ça une sorte de pouvoir de régénération politique à une femme, parce que ça me semble manquer quelque chose que j'avais souligné dans la première séance, qui est qu'en général, toutes ces histoires wagnériennes, elles se terminent mal pour les femmes. Hein. Senta, Elsa, Elisabeth, Brunehilde, Kundry, souvent elles meurent à la fin. Hein, et puis ça se fait davantage au profit des hommes, hein, qui sont les héros, qui sont sauvés par le sacrifice rédempteur des femmes. Hein, par exemple, Elisabeth, Siegfried, effectivement, il meurt à la fin de l'opéra, mais on voit que c'est quand même un chant de triomphe du héros. Qui a accompli cette destruction de l'ordre des dieux, des anciens dieux, qui est exalté par Brunehilde. Donc, interprétation intéressante sur ce glissement de l'éros à l'agapé et sur son incarnation par une figure féminine, mais qui, à mon sens, est un peu trop rare dans le traitement des héroïnes par l'opéra wagnérien pour être véritablement convaincante. Hein. Y voir un Wagner féministe me semble extrêmement rapide et c'est aller un peu trop vite en besogne. Alors, second thème que je voudrais évoquer à partir du livre de Chichek, c'est davantage toujours, alors c'est aussi toujours une lecture politique de l'œuvre. Alors, ça se coule dans les deux problèmes de l'antisémitisme et de la révolution. Et c'est une dimension politique qui s'exprime dans l'opposition des deux personnages de Hagen et de Siegfried. Hein, alors Hagen, c'est le fils d'Alberich, qui est chargé par son père de mener à bien son, son projet de récupérer l'anneau que Siegfried a, a récupéré. Hein. Et donc pour cela, Hagen va mener une sombre manipulation de Gunther et Gudrun via un filtre qui fera oublier à Siegfried qu'il est uni à Brunehild et qui va lui faire voler violemment le, l'anneau qu'il lui avait donné donc à Brunehild. Donc Hagen, c'est l'exécuteur des basses œuvres de, d'Alberich, son, peur, son, son père, et c'est aussi quelqu'un qui sait haranguer la foule. Hein. Et à ce titre, Žižek en fait un premier portrait du leader fasciste. Donc il y aurait dans ce personnage des ressources pour une dénonciation du personnage futur du leader fasciste qui sait magnétiser la foule et la manipuler par ses capacités de tribun. Alors, Žižek reconnaît aussi qu'il y a de l'antisémitisme dans l'œuvre de Wagner, mais il voit dans cette dénonciation des juifs l'expression de quelque chose d'autre. Il nous dit « La figure antisémite du juif n'est pas un référent direct ultime, mais est déjà codée. Elle est un code des antagonismes sociaux et idéologiques. » Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que cette figure du juif épris de pouvoir et de richesse, qui mène le monde à la corruption, c'est une déclinaison ou une métaphore de quelque chose de plus central, qui est la soif de richesse elle-même, l'appât du gain, c'est-à-dire la logique capitaliste. Et Žižek nous dit, nous devrions seulement déplacer la perspective sur la dynamique capitaliste, discerner dans cette figure, donc celle du juif, un code pour comprendre cette dynamique. Alors, en fait, on retrouve quelque chose qui est connu au XIXe siècle, hein, qu'on retrouve par exemple dans certaines phrases du texte de Marx sur la question juive, qui est l'assimilation de la judéité au capitalisme. Mais Žižek propose d'ignorer ou de relativiser la dimension juive qui serait superficielle, et ce qui ne serait pas superficiel, ce qui serait essentiel, ben ça serait la critique du capitalisme, de l'appétit de richesse. Donc une relativisation du caractère antisémite de l'œuvre de Wagner, c'est-à-dire lorsque il nous dit juif, il faut entendre capitaliste, et que finalement c'est secondaire, l'antisémitisme. Ce qu'il y aurait, ce qui serait fondamental et ce qu'il faudrait discerner dans l'œuvre, c'est une critique du capitalisme. Et puis, un autre élément qui amène Žižek à relativiser cet antisémitisme, c'est que, dans les opéras de Wagner, le mal ne vient pas de l'extérieur. Donc la thèse d'une corruption du monde par les étrangers ou par les juifs ne tiendrait pas. On ne pourrait pas accuser Wagner de rejeter la faute d'une corruption du monde sur tel ou tel groupe qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il nous dit, les problèmes dans la tétralogie, ça ne vient pas du personnage censé être une incarnation du juif, Alberich. Les problèmes, parce que Alberich, il réagit de manière un peu brutale, mais aux filles du Rhin qui l'ont rejeté. C'est-à-dire qu'il a été séduit par ses jolies filles, et puis elles se sont moquées de lui, elles l'ont rejeté, donc voilà, par dépit, il renonce à l'amour et il récupère l'or. Mais tous les problèmes ne viennent pas d'Alberich, les problèmes ils viennent de Wotan et des contradictions dans lesquelles Wotan s'est lui-même placé. C'est-à-dire que, à la fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à la fois c'est le dieu des contrats qui doit faire respecter les règles des contrats, mais qui lui-même ne veut pas les respecter. Donc, le problème, il vient de l'intérieur du monde des dieux. Il n'est pas, c'est pas un germe extérieur hein, qui amène au déclin du monde des dieux. De même, autre exemple, dans Parsifal, la figure du mal, c'est pas Kundry. Alors, Kundry, c'est un personnage qu'on peut assimiler à une figure de juive très 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 facilement parce qu'elle est liée à l'Orient. Hein, au début de l'opéra, elle revient d'Arabie. Et puis, dans son histoire, elle s'est moquée du Christ. Hein, elle a ri du Christ et c'est pour ça qu'elle est pendant son supplice et c'est pour ça qu'elle a été maudite. Donc, effectivement, Kundry peut représenter. On peut proposer cette lecture d'une incarnation de la judéité. Mais l'incarnation du mal dans Parsifal, c'est pas Kundry, c'est Klingsor. Et Klingsor, c'est un des chevaliers du Graal qui s'est exclu lui-même de la confrérie des chevaliers parce que il n'a pas suivi les règles, il a essayé de tricher, c'est-à-dire que pour résister à la tentation, il s'est castré lui-même. Bon. Et donc, il est exclu et il devient un personnage maléfique à cause de ça. Hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de résister à la tentation, donc il a triché. Donc c'est bien le mal, il vient de l'intérieur du monde des chevaliers. Hein. Et de même, le problème, tous les problèmes que rencontre le monde des chevaliers du Graal, il vient aussi de quelqu'un qui est central, c'est Titurel, le père d'Amfortas, qui veut que constamment on célèbre qui veut pas mourir. C'est un vieux qui veut pas mourir, si vous voulez. Il veut qu'on lui célèbre la cérémonie du Graal parce que c'est ça qui le maintient en vie. Et dans le même temps, célébrer cette cérémonie, c'est ce qui entretient la blessure de son fils Amfortas. Donc, les problèmes qui règnent dans ces univers-là, ils viennent de l'intérieur. Ils ne sont pas des choses qui viennent de l'extérieur. Et puis, nous dit Chichek, il faut relativiser ou mettre à distance l'antisémitisme de Wagner, parce que bien des personnages sont des formes d'incarnation de la figure du juif errant. Et ce ne sont pas des personnages négatifs. C'est-à-dire le Hollandais, dans le vaisseau fantôme, qui est condamné à l'errance, Lohengrin, qui erre aussi, qui essaye de trouver un point d'attache avec Elsa et puis qui finalement est condamné à repartir. Votan qui est transformé, qui prend la figure du voyageur. Hein. Et Kundry qui erre à la recherche de quelque chose qui pourrait soigner Amfortas. Hein. Et cette condition d'errant fait remarquer Chichek, ça a été aussi la condition de Wagner pendant une grande partie de sa vie. Donc, une relativisation du caractère antisémite de la lecture qui stigmatiserait l'antisémitisme de Wagner. Et puis, un dernier aspect de cette dimension politique, c'est la portée révolutionnaire de Parsifal, toujours, puisque le héros annonce, à la fin de l'opéra, une régénération de la communauté. Chichek nous dit, c'est l'invention d'une nouvelle forme de social. Et qui devient une forme de collectivité davantage démocratique, précisément pour cette raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est Parsifal qui célèbre la cérémonie, il dit le Graal doit rester dévoilé en permanence. Hein. Donc tout le monde a accès, d'une certaine manière, au bienfait du Graal, puisqu'il est constamment exposé, plutôt que d'être caché, et d'être réservé, d'une certaine manière, à ceux qui ont un accès restreint, qui ont le privilège d'y avoir accès. Donc l'histoire de Parsifal, dans la lecture qu'en donne Chichek, ça serait le récit d'un apprentissage où le héros apprend à aider les gens de leur souffrance. Hein, et le thème de la compassion, je l'ai dit, il est effectivement central dans cet opéra. Et nous dit Chichek toujours, la démarche de Parsifal, son cheminement au travers l'opéra, ça serait la construction, je cite, de quelque chose comme un parti révolutionnaire. Et il nous fait une lecture, dit, bon, effectivement, la phrase qui est prononcée, seule la lance qui ouvrit la blessure peut la fermer. Hein, c'est-à-dire que Amfortas a été blessé par la lance qui a déjà blessé le Christ. C'est la lance que s'est appropriée Klingsor, hein, au moment où Amfortas cédait à la séduction de Kundry. Bon, Klingsor détient la lance, Parsifal va la récupérer, et cette lance, réintroduite dans la blessure d'Amfortas, va guérir cette blessure. Hein? Donc seule la lance qui ouvrit la blessure peut la fermer. Mais la lecture qu'on propose Chichek, c'est l'expression, je cite, du paradoxe principal de tout processus révolutionnaire au cours duquel la violence est nécessaire pour écraser la violence existante. Hein? Ce qui ouvre la blessure peut aussi la fermer. Donc la violence révolutionnaire doit servir à écraser la violence existante, c'est-à-dire, dans sa lecture, celle de l'ordre capitaliste. Alors, moi, j'ai, vous l'avez sans doute compris, beaucoup de réserves devant l'interprétation libre à laquelle se livre Chichek, Mais je trouve que cette dernière interrogation sur la violence révolutionnaire qui serait nécessaire pour écraser la violence existante de l'ordre capitaliste, je pense qu'elle peut exercer quelques séductions. Mais comme Wagner, j'ai du mal à conclure sur une totalisation, donc c'est sur l'ouverture de cette piste que je vais terminer, mais donc sans conclure. Merci.